cultiver son jardin. Alors, à une époque, c'était en quelque sorte une norme. Et les modes de vie ont depuis évolué, les terrains sont devenus constructibles, les grands ensembles ont remplacé les espaces verts. Mais depuis quelques années, les mentalités changent et un retour à la végétalisation en mode do it yourself réapparaît, où de plus en plus de personnes essayent de s'emparer de ces espaces verts qui peuvent leur appartenir. Mais comment s'y prendre ? Voilà, comment s'y prendre, que faire pousser, dans quel espace, pourquoi déjà on va cultiver, on va se faire son jardin, est-ce qu'on va avoir le temps, et puis bah, c'est autant de questions auxquelles vous répondez, Rémi Kulik du Jardin des Merveilles. Ce sera lors de cette prochaine conférence sur le salon Tatou Juste. Alors le Jardin des Merveilles et puis concevoir son jardin forêt, ça fait l'objet d'éditions de deux livres me semble-t-il aux éditions Terre Vivante. Alors bienvenue hein, sur notre plateau radio.
Merci.
Alors Rémi Kulik, Jardin des Merveilles, qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous ? Présentez-vous.
Alors comment je pourrais me présenter ? Passionné de vie. Le Jardin des Merveilles, ça s'écrit D'émerveille parce que je suis émerveillé par cette vie-là. J'ai grandi en Afrique au milieu d'une nature foisonnante, grouillante et je pense que c'est ça qui dès le début a planté, semé des graines en moi de passion pour cette vie-là, quoi.
Alors, une passion qui se vit, ça s'entend à votre accent, dans le Tarn.
Oui, dans le sud, ouais, pas loin de Toulouse. J'ai un peu l'accent toulousain.
Alors, justement, du coup, à l'invitation de Tatou Juste, vous êtes ici pour concevoir votre... Et chacun peut concevoir son jardin-forêt. Comment on définit cette notion de jardin-forêt ?
L'idée, c'est de se calquer sur... Comment ça fonctionne dans la nature? La nature fonctionne toute seule sans avoir besoin de notre aide. Et l'idée, ça va être de capter quels sont les principes qui font que ça fonctionne tout seul et d'appliquer ces principes dans des écosystèmes qui vont être créés par nous, les jardiniers, pour avoir quelque chose qui fonctionne tout seul mais qui produit des choses qui nous intéressent. Et dans ce qu'on produit, ben, ça peut être très très large.
Alors, on a des termes hein, qui sont employés, mais j'aimerais bien qu'on les définisse. La permaculture, c'est quelque chose qui est important dans vos travaux et dans ce que vous, de la manière dont vous cultivez et vous avancez.
Alors, j'ai fait des formations moi, agricoles, j'ai appris le bio, j'ai survolé pas mal de systèmes agricoles. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont fait vibrer. Et le jour où j'ai découvert la permaculture, je me suis aperçu que c'est juste une méthode, en fait, la permaculture, mais qui se rapproche de comment fonctionne la nature et comment faire des choses qui ne sont pas gênantes pour la nature. Que la nature puisse continuer à fonctionner alors que nous, on crée un écosystème, donc se calquer sur ses fonctionnements. C'est pas la même chose que le jardin-forêt. Avec la permaculture, c'est un outil qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Mais appliqué au jardin-forêt, c'est pour moi l'outil le plus efficace, le plus rapide, le plus efficient qui soit.
Alors, ça rapporte à la connaissance finalement de ces plantes, à la connaissance de leur rôle, de leur fonction. On l'étudie, ça.
Ah ouais, ah ben c'est justement là que c'est intéressant, c'est comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut connaître les plantes, mais pas que, il faut connaître toute la biodiversité, hein, c'est les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, toute la microbiologie du sol. Alors c'est passionnant, je dirais, il faut faire attention quand on commence à mettre le doigt dedans.
Alors ça c'est testé, expérimenté au Jardin des Merveilles. Mm-hmm. Alors qu'est-ce que le Jardin des Merveilles ? Présentez-nous un peu tout ça.
Alors c'est le nom de mon projet de vie, je pourrais dire. Ça a été une association, ça a été un lieu, enfin ça en est un nouveau maintenant, c'est le nom d'une pépinière. Je vais dire, c'est déjà une pépinière sur laquelle on produit des plantes avec les méthodes permaculture. C'est un lieu sur lequel j'ai créé un jardin forêt que j'ai commencé à créer il y a une quinzaine d'années. Et c'est la base de mon projet que j'utilise pour partager les connaissances. Donc, Jardin des Merveilles, c'est on étudie, on observe la nature, on teste, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et une fois qu'on a compris des choses, on partage.
Alors, on partage. Mais qu'est-ce qu'un jardin forêt ?
Alors, jardin forêt, ça va être un jardin créé par le jardinier qui va le mettre en place et qui va essayer de remettre en place ce qui se passe dans la nature, comme je disais. Donc il va falloir qu'il y ait des arbres, il va falloir qu'il y ait des arbustes, il va falloir qu'il y ait des buissons, il va falloir que la biodiversité soit présente. L'objectif, ça va être de faire en sorte que, une fois que c'est en place, ça marche presque tout seul, qu'on ait le moins d'efforts possible à faire pour que ce soit le plus productif possible. C'est un peu ça, d'ailleurs, le centre de mon deuxième livre, c'est comment, en y travaillant le moins possible, on va réussir à le rendre le plus productif possible. Et ça, il n'y a que la nature qui peut nous aider à faire ça.
Alors effectivement, là, on calque la nature, c'est-à-dire le cycle un peu naturel, et là, la main de l'homme qui va influencer tout ça. Ce sont des conseils, et puis c'est de l'expérimentation. Cette expérimentation, ces expérimentations que vous avez pu faire, elles viennent d'où en fait, je crois que votre passé, vous le dites hein, sur votre site internet, en Afrique, c'est aussi voilà, un point de départ.
On va parler de l'Afrique. Ouais, j'ai grandi donc en Afrique hein, jusqu'à mes 10 ans. Et mes premiers jardins, c'était là-bas. J'ai fait pousser de l'avocat, de l'ananas, de la canne à sucre, de la cacahuète. J'ai déjà eu cette passion-là. Et puis, mon passe-temps favori, c'était aller explorer la nature, aller choper des bestioles, les mettre dans des petites boîtes, les ramener chez moi, les observer. Donc déjà, dès le début, il y a eu la passion de voir comment ça fonctionne, comment c'est vigoureux, comment c'est juste... Ça marche tout seul, en fait. Et on peut y prélever des choses pour manger. Et on peut mettre en place le même genre de choses dans nos jardins. Alors avant d'avoir un jardin qui ressemble à un jardin équatorial, c'est difficile. Mais on peut avoir des choses qui, par saison, s'en rapprochent un peu.
Alors justement, là on parle d'études, hein, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, mais il y a peut-être cette notion d'observation, et l'observation de la nature, et de transmission aussi, parce que j'imagine que, et c'est l'objectif hein, de votre conférence et de ces ouvrages-là, c'est de donner des clés, de donner des idées. Alors si on parle de cette notion de transmission, si l'on parle aujourd'hui en 2025, et que l'on parle de la manière de cultiver, de faire pousser, en quoi elle diffère finalement de ce qui se faisait à l'époque?
Alors ce qui se faisait à l'époque, elle diffère pas tant que ça. Ce qu'on appelle les anciennes fermes, c'était beaucoup de polyculture élevage, ça veut dire polyculture, on cultive plein de choses, et il y a l'élevage à côté, et les deux sont en interaction. Mais ça se rapproche de ce qui se faisait à l'époque, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les problèmes de dérèglement climatique qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas les problèmes de pollution qu'on a aujourd'hui. Et l'idée, c'est de revenir à ce qu'on faisait à l'époque, avec la conscience des bêtises, pour rester poli, qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, et de remettre en place une nouvelle agriculture. Alors moi, quand je parle de jardin-forêt, c'est vraiment destiné surtout aux particuliers, mais je rêve de communiquer plus avec les gros agriculteurs, parce que pour les agriculteurs, on va pas parler de jardin-forêt, on va parler d'agroforesterie, mais les principes fondamentaux sont exactement les mêmes. Donc quand je transmets beaucoup aux particuliers, mais je pense qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui m'écoutent. Et j'espère qu'il y en a quelques-uns qui seront d'accord avec moi.
Alors pour les spectateurs ici, pour les personnes qui seront présentes donc à la conférence et pour nos auditeurs, le jardin forêt, quel est le point de départ? Quel est le prérequis en fait déjà avoir du terrain?
Oui, mais c'est relatif. Au moins un petit terrain. Il faut un bout de terre.
Un bout de terre aussi.
Quelqu'un qui a un appartement avec un balcon, un pot, ça, on peut faire des choses sympas sur un balcon, mais c'est plus un jardin forêt. Un jardin forêt, il faut un bout de terre. Le plus petit jardin forêt que j'ai visité, il faisait 70 mètres carrés. Et bon, on s'y perd pas non plus, mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et je dirais, le premier prérequis, c'est être passionné par la vie, déjà.
Et voir les choses évoluer. Alors, un coin de terre, et puis qu'est-ce qu'on va y mettre pour faire développer, en fait, cet espace-là?
Alors, de tout, ça dépend, je dirais, ça dépend de quoi on part. Si on est branché potager, il suffira de rajouter des buissons, des arbres, et rajouter un peu de hauteur et du ligneux, des arbres. Si on est passionné de verger, eh bien on va peut-être écarter un peu plus certains arbres et y faire du potager en dessous. L'idée, ça va être vraiment de mélanger les cultures, de les mettre en interaction. Et puis après, à partir de là, on peut rajouter, on peut faire de l'apiculture, on peut faire une basse-cour, les animaux ont toute leur place aussi en jardin-forêt. Donc selon de quoi on part, on va juste compléter sa palette.
Alors c'est l'objet de ces ouvrages, c'est l'objet de cette conférence, mais aussi dans l'air du temps, vous animez une chaîne YouTube où vous donnez des conseils et vous traitez de certains sujets. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette chaîne YouTube?
Alors si on part du début, on va beaucoup parler de permaculture au début, parce que j'ai d'abord découvert cet outil-là. Et j'en parlais beaucoup, permaculture humaine, parce que le lien avec l'humain se fait très très vite. Et puis, je parle de pas mal de méthodes de culture, et puis petit à petit, de jardin-forêt. Et puis, ça va très très loin. Des fois, ça sort un petit peu du milieu agricole et ça fait un peu de philosophie, parce que ben, c'est très très large. Comme je disais, la permaculture touche aussi à l'humain. Le jardin-forêt, c'est un écosystème mis en place par l'humain, donc... Il faut gérer ça aussi. Et puis faire des jardins ensemble. On a fait une école nature un petit peu où on a accueilli des enfants pour les initier à ça aussi. Donc voilà, ça peut traiter de pas mal de choses autour du jardin, quand même autour des plantes toujours.
Alors, dans nos journées qui passent très vite, c'est cette notion de temps qui est importante, en fait. Mmh. Et laisser pousser, laisser avancer la nature, c'est aussi prendre le temps, c'est important, ça aussi, d'avoir cette notion-là quand on se lance là-dedans.
Ouais, prendre le temps d'observer. Faire les choses, regarder comment ça réagit et réagir derrière en fonction de ce qu'on a observé. Mais observer, oui, oui, c'est la base. Même, alors, en permaculture, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais beaucoup de permaculteurs vont dire avant de commencer à agir sur un nouveau terrain, on passe au moins un an à observer. Alors, perso, j'agis dès le début, mais on observe tout le temps ce qui se passe, puisque c'est toujours cette nature qui va nous apprendre comment ça fonctionne, comment il va falloir agir en fonction de ce qui se passe, voir à quel moment il fait chaud, à quel moment il fait froid, à quel moment il gèle, à quel moment il pleut, combien il pleut. Enfin, tous ces trucs-là sont hyper importants parce que c'est en fonction de tout ça que nous, on va agir derrière. Plutôt que d'avoir quelque chose de carré où on sait que c'est à tel moment qu'il faut semer, à tel moment qu'il faut récolter. Ben non, si on fait sans réfléchir et sans observer, ça ne marche pas.
J'aurais plusieurs petites questions, et notamment sur le côté observation. Et moi, je pense à adaptation. Vous êtes dans le sud-ouest et on parle d'écologie et de réchauffement climatique. Et forcément, j'imagine qu'on ne cultive plus aussi aujourd'hui comme avant, justement lié à ces changements. Comment on s'adapte et quelles sont justement un petit peu là les perspectives? J'imagine qu'on ne sont plus les mêmes essences, les mêmes plantes, et qu'il s'agit d'adopter aussi des changements en termes justement d'essence et de culture en tant que telle.
Ouais, alors déjà, plus les mêmes plantes, ouais, on va déjà s'amuser à trouver des nouvelles plantes. Il y a énormément de nouvelles variétés de plantes qui sont créées, pas forcément récemment, mais qu'on ne connaît pas trop ici et qu'on peut tester. Et après, il y a beaucoup de méthodes. On va apprendre à capter l'eau et à la stocker plus efficacement pour l'avoir au bon moment. On va apprendre à étager les cultures. Par exemple, chez moi, il y a beaucoup de vignes qui sont cultivées, et souvent la vigne, c'est juste de la vigne, rien d'autre. Alors qu'à une époque, entre les rangs de vignes, il y avait des rangs d'arbres. Et quand il y a les arbres pas loin, ben, la vigne a tendance à mieux pousser. Et du coup, ben, on va pouvoir revenir à des systèmes anciens où on va mélanger les cultures. Parce que les cultures monospécifiques et les monocultures, c'est assez récent, c'est assez occidental. Ben, on va essayer de revenir un peu à l'ancienne, mais avec l'expérience et le recul qu'on a aujourd'hui.
Ouais, et alors, une autre question qui me préoccupait, c'est celle de... Chacun, il va un peu de son concept. Jardin-forêt, on a l'impression qu'il faut un peu réensauvager, finalement, enfin, laisser faire un peu les choses. Est-ce que vous... Enfin, ou en tout cas, comment vous... peut-être vous différencier de, par exemple, Éric Lenoir qui a développé ses jardins punk. Là, il me semble que vous rejoignez un peu cette idée, quoi, finalement, c'est-à-dire de laisser faire. C'est un peu le jardin de feignant, quoi. On laisse pousser, on intervient très peu, ou voilà. Alors voilà, comment simplement peut-être.
Il y a plein de façons de faire. Moi, déjà, ce que je dis pas que il y a pas une solution. Il y en a plein. Laisser un sauvager, laisser faire tout seul pour que la nature puisse retrouver sa place, pour qu'on puisse revenir s'émerveiller à observer ça et à se, peut-être un jour se dire merde, on est en train de tuer quelque chose là, qui c'est grâce à ça qu'on vit, et c'est peut-être bien de le revoir. Donc ça, c'est intéressant. Après, le jardin forêt, laisser faire, moi je dirais c'est selon l'objectif aussi. Moi, par exemple, personnellement, je suis pépiniériste, j'ai un objectif de production, donc je vais peut-être pas laisser un sauvager autant que le ferait Éric Lenoir ou qui que ce soit. Mais c'est une solution parmi tant d'autres, et selon les objectifs qu'on a, on va toujours agir en fonction. Si on peut reparler encore juste trois mots de permaculture, il y a une éthique à la permaculture, c'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, et juste déjà ces deux principes-là, si on commence à les appliquer à n'importe quel système agricole, si on agit comme on agit en agriculture, mais en pensant à essayer de respecter la nature, déjà on fait mieux. Même si c'est pas du jardin-forêt, même si c'est pas de la permaculture à fond, au moins essayer de prendre soin du vivant, tout en continuant à produire, parce que c'est souvent un reproche qui est fait au jardin forêt, c'est bon pour les particuliers, mais l'agriculture ne veut pas de ça. Ben si, en fait, il y a moyen de faire un peu évoluer l'agriculture. Voilà, c'est une des solutions, parmi tant d'autres, mais c'est une des solutions quand même.
Alors, lorsqu'on se lance dans un projet de jardin forêt, donc c'est l'observation déjà de ce qui est disponible sur le terrain, la topographie, entre guillemets, on peut imaginer qu'à un moment donné, un terrain en pente, elle va être difficile à exploiter avec de gros guillemets, mais à mettre en action. Voilà, quel conseil vous donnez? On parlait d'arrosage, j'avais entendu parler de pompe bélier pour faire remonter un peu l'eau, très efficace, une façon
low-tech.
Voilà. Quelle est la première observation qu'il faut avoir, en fait? Parce qu'il faut quand même se mettre dans... imaginer l'espace.
Moi, je dirais déjà, si on part sur un terrain, on n'a pas forcément trop de choix sur ce qu'on doit faire. On doit s'adapter au terrain. Si on a un projet, mais qu'on n'a pas encore le terrain, on va chercher le terrain qui correspond à ce qu'on veut produire. Par contre, si on a un terrain en pente, selon la pente, selon la terre, on ne va pas forcément pouvoir faire de la céréale, on ne va pas forcément pouvoir faire certaines choses. Par contre, moi, un terrain sans pente, c'est dommage. On va moins pouvoir s'amuser. S'il y a de la pente, on va pouvoir jouer avec les écoulements de l'eau, créer des zones plus humides, créer des zones plus sèches. Sur de la pente, on va pouvoir faire des terrasses, on va pouvoir faire des baissières, c'est-à-dire des tranchées qui sont creusées sur les courbes de niveau pour pouvoir retenir l'eau. Et l'idée, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, retenir l'eau le plus possible, parce qu'on en a pas de moins en moins, mais en tout cas, on l'a de moins en moins au moment où on en a besoin. Et on va justement s'adapter au terrain. Ça, s'adapter, c'est la base incontournable.
Alors s'adapter, ça c'est toujours très important. On parlait de low-tech, en fait on peut faire quelque chose avec la nature, avec peu de moyens finalement.
Mm-hmm. Ah ben complètement, mais avec un peu de réflexion, un peu d'imagination, c'est un des principes en permaculture, c'est la limite, c'est l'imagination. Si t'as de l'imagination, tout est possible.
Alors aujourd'hui, ce développement et vous qui animez cette chaîne live, donc avec cette chaîne YouTube, avec des interactions, avec aussi des discussions comme la conférence de ce jour, avec ces visites du côté pédagogique, comment vous voyez un peu l'évolution en fait des mentalités? Je le disais dans mon introduction, des personnes se tournent vers, se retournent vers la nature en ce moment. Comment vous le constatez-vous?
Alors moi, je suis un peu biaisé parce que moi, tous les gens que je vois autour de moi, les gens qui fréquentent, que je fréquente, les gens qui sont en interaction avec moi, c'est dommage parce qu'ils sont déjà convaincus la plupart. Mais oui, ça évolue. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui subissent le dérèglement climatique. Il y a de plus de gens qui subissent la perte de biodiversité. Et ce qui me fait plaisir, c'est pas forcément dans le tout venant du public, c'est plus au niveau des agriculteurs. Et il y a de plus en plus d'agriculteurs qui cherchent vraiment à avoir des solutions. Ce qui est triste, c'est que des fois, il y a beaucoup de gens qui sont contre les agriculteurs parce que c'est une base d'être contre l'agriculture conventionnelle, alors que énormément, je ne vais pas dire tous, mais énormément d'agriculteurs conventionnels qui sont très loin du bio, très loin de la permaculture, il y en a beaucoup qui veulent faire des efforts et qui cherchent à faire des efforts parce qu'ils sont conscients que la fertilité des sols baisse à cause du labour, à cause des pesticides, à cause de plein de choses. Donc, j'ai tendance à être assez optimiste par rapport à l'évolution du regard de ceux qui doivent changer.
Alors si l'on en vient à votre présence aujourd'hui, donc cette conférence qui aura lieu d'ici quelques minutes à l'espace conférence sur le salon Tatou Juste, comment vous entrez en action et en discussion avec les personnes en face de vous? Quel est, en forme de petit appel de discussion, c'est quoi le point de départ de la discussion que vous allez avoir?
Alors là, ça va être, aujourd'hui, ça va être surtout le côté comment être efficace. Je raconte en fait, mon deuxième livre, c'était beaucoup travailler sur comment être efficace, à savoir que moi, je travaille dans mon jardin à peu près 3 heures par jour et à peu près 5 jours, 6 jours par semaine. Et malgré ce petit temps de travail, j'entretiens un jardin de 7000 m², très productif en légumes, en fruits, j'ai des volailles, c'est assez efficace. Et ça, c'est quand même le résultat de 15 ans de travail de pépiniériste, de passionné de plantes, passionné de méthodes culturelles. Donc la base de la discussion, ça va être comment avoir un jardin qui va être productif en faisant le moins possible.
Alors, bon, faut pas être feignant quand même, parce qu'il faut s'y mettre. Mais c'est ce côté-là, en fait, de laisser faire, d'observer et d'intervenir lorsqu'on a besoin d'intervenir.
C'est ça. Moi, j'ai une belle phrase qu'on m'a sortie il n'y a pas longtemps. Il n'y a que les fainéants qui peuvent changer le monde. Les autres, ils n'ont pas le temps.
Et c'est parfait. Alors, merci Rémi Kulik d'être venu sur l'antenne de Radio Ondaine et de Radio Audio. On vous souhaite une bonne conférence tout à l'heure. Et puis, cette chaîne YouTube, d'ailleurs, si l'on veut vous découvrir via l'Internet, comment on fait?
Tapez Le Jardin des Merveilles en passant à bien écrire D'Emerveille. Vous allez tomber sur la chaîne YouTube, sur le site Internet, sur lequel il y a pas mal de liens, de choses intéressantes.
Et puis, c'est deux publications aux éditions Terre Vivante. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne journée.
Merci à Saint-Étienne. Merci.